Je voudrais vous inviter à regarder de nouveau avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Nous continuons notre étude à travers ce chapitre 11, en regardant les exemples de la foi qui nous sont donnés, ici tirés de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup qui s'imaginent que lorsqu'on parle de la foi, que, alors il s'agit de l'époque du Nouveau Testament. Mais l'apôtre Jude, dans son épître, a parlé de la foi qui a été une fois transmise aux saints. Il n'y a qu'un seul chapitre dans l'épître de Jude, le verset 3. Quoi, il dit, bien-aimé, désirez vivement vous écrire au sujet de vous-même. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été mise au sein une fois pour toutes. Et toutefois que nous voyons ce mot foi dans les Écritures, il s'agit de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre accomplie à la croix. Ceux de l'Ancien Testament qui étaient des croyants par la grâce de Dieu, regardés par un œil spirituel que l'Esprit leur donnait à celui qui devait venir, le Seigneur Jésus, la postérité d'Abraham, et ce qu'il devait accomplir pour leur salut, la promesse du salut en lui. Depuis la croix, nous regardons, nous qui sommes encore des enfants de Dieu par la grâce de Dieu, nous regardons à celui qui est venu, selon ce que les prophéties ont annoncé, et selon la promesse de Dieu, il est effectivement venu et il accomplit tout ce qui a été prédit et décrit, ordonné de lui, et nous regardons donc à sa personne et sa mort accomplie. À travers ce chapitre, nous avons déjà vu comment Abel était un exemple de cette foi en offrant un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, le verset 4. Plus excellent parce que Caïn offrait un sacrifice qui était l'œuvre de ses propres mains. C'était des produits qu'il a cultivés dans son champ et qu'il est venu offrir à Dieu. Et quoique, je suis sûr, ce produit était le meilleur qu'il pouvait trouver, néanmoins, ce n'était pas acceptable de Dieu parce que ce n'est pas ce que Dieu a exigé. Il a exigé l'agneau immolé à l'époque, encore qui représentait la mort du Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est écrit ici dans l'Épître aux Hébreux, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et nous avons vu l'exemple aussi d'Enoch qui marchait avec Dieu, de Noé. Ce que tous ces exemples ont en commun, c'est cette foi révélée par Dieu, par son esprit, en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons déjà noté, là vous voyez la foi. Nous pouvons remplacer ça par Christ et Christ crucifié, parce que la foi, c'est la démonstration, c'est la révélation de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, aussi la dernière fois, dans les versets 8 à 16, nous avons vu cette même foi qui a été révélée, donnée à Abraham, par laquelle, vous voyez dans le verset 8, il a été appelé à Christ, quoique Christ n'est pas encore venu. Néanmoins, cet appel, comme toujours en ce qui concerne la foi, concerne Christ. C'est venir à Christ. ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, les prophètes. L'apôtre Pierre disait que l'Esprit du Christ était en eux. Aujourd'hui, il y a un enseignement qui veut faire une grande distinction entre ce que ceux de l'Ancien Testament croyaient et ce que ceux du Nouveau Testament croyaient. Mais il n'y a aucune différence. Il y en a qui disent non, eux, ils étaient acceptés par leur obéissance à la loi. Non? Notre acceptation, comme toujours, est toujours par l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Son obéissance, c'est par son obéissance que les pécheurs ont été une fois pour toutes justifiés devant Dieu. Et l'ordre ici est très important à regarder, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. L'obéissance et le fait de partir est selon la vocation, l'appel de Dieu. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui lui donne cette obéissance, qui lui donne, qui l'appelle. Ça, c'est très clairement annoncé dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6. Nul, Christ, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné de son Père. Donc nous avons déjà vu cette foi qui a été donnée à Abraham. Mais en particulier aujourd'hui, dans cette étude, je voulais continuer avec les versets 17 à 19. Et j'ai intitulé cette étude « L'épreuve de la foi d'Abraham ». L'épreuve. C'est écrit dans le verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Depuis le départ, depuis la chute, Dieu a promis une postérité. Même dans le jardin, c'était la postérité de la femme que lorsque cette postérité était venue, que cette postérité devait écraser la tête de la postérité du serpent. Ça, c'est Christ. Et voilà, au fur et à mesure que nous lisons dans l'Ancien Testament, l'histoire, c'est l'histoire de cette postérité rédemptrice. L'Ancien Testament a annoncé que cette postérité devait venir. Le Nouveau Testament annonce que cette postérité est venue. Mais cette postérité a été annoncé que ça devait venir de la part d'Abraham. Et nous savons qu'Abraham avait beaucoup d'autres fils. Il avait Ishmaël et puis des descendants d'Ishmaël. Mais en particulier, la postérité d'Isaac. Voilà ce qui est nommé ici. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Le sens là, c'est la postérité de Christ, que Christ devait venir de cette postérité et accomplir parfaitement le salut de tous ceux que Dieu a choisis depuis l'éternité comme postérité, mais en son Fils. Et verset 19 dit, il pensait, Abraham pensait que Dieu est puissant. Et là, dans le sens de ce mot « penser », il n'y a pas de doute. Peut-être notre manière de traduire cela pouvait être y considérer. C'est un terme de comptabilité où un comptable tient compte de chaque aspect de sa comptabilité. Voilà le sens. Il pensait, il considérer que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection, dans le sens figuré. Alors, cette épreuve dont l'auteur qui écrit aux Hébreux mentionne ici en particulier cette épreuve de la foi d'Abraham qui est tirée de Genèse chapitre 22, lorsque Dieu a ordonné à Abraham d'offrir son fils Isaac, et c'est lui qui est appelé ici la postérité selon les promesses. Verset 17 dit qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, quelles étaient les promesses? On va arriver tantôt à Genèse chapitre 22, mais les promesses dont ça parle ici, on trouve dans Genèse chapitre 12 et le verset 3. Vous voyez le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'esquisse de ce que Dieu a ordonné pour le salut des pécheurs, et dans le Nouveau Testament, nous avons l'accomplissement. Mais les promesses qui sont mentionnées ici dans Hébreux 11 et le verset 17 concernent cette parole de Dieu à Abraham dans le verset 3 en particulier, mais nous remontons jusqu'au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12:1, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Imaginez Abraham ici isolé. Il était dans un pays étranger lorsque Dieu l'avait appelé. Il était idolâtre, en fait. C'est ce qui est écrit de lui dans le livre de Josué. Mais voilà, c'est Dieu qui a mis son affection sur Abraham, comme Dieu fait pour tout pécheur qu'il appelle. Son affection est depuis l'éternité. Mais ce n'était pas simplement pour glorifier Abraham quand il dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ». Mais la postérité qui mentionne ici dans le verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il y en a aujourd'hui qui s'imaginent que voilà, il s'agit là du peuple juif, c'est-à-dire de la postérité physique d'Abraham, que Dieu promet bénir maintenant toutes les nations de la terre. Et quand nous avons déjà regardé dans l'explication de l'apôtre Paul à ce sujet dans Galates chapitre 3, et le verset 16, c'est clair qu'il ne s'agissait pas de la postérité physique d'Abraham que Dieu lui a dit, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Ici, c'est écrit, or, les promesses, Galates 3, 16, ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, comme la croix avait pour objet Christ, comme la postérité d'Abraham, c'est ainsi que les promesses aussi avaient en vue le Seigneur Jésus-Christ venant dans la chair, Abraham a été choisi par Dieu pour être celui par qui le Rédempteur viendrait et que lui et ses descendants devaient proclamer ce Rédempteur au reste des nations. Alors nous avons regardé cela la dernière fois en voyant comment ces promesses ont été faites à Abraham. Et Dieu a promis dans le même chapitre 12 là. Ce n'est pas parce que qu'il y avait quelque chose de spécial concernant Abraham. Non, il était un élu de Dieu, comme tous ceux qui sont élus. Et c'est selon la grâce de Dieu que Dieu a agi en faveur d'Abraham, exactement comme pour tous ceux qui sont des élus de Dieu. Donc, certaines de ces promesses concernent tous les élus de Dieu, tous ceux qui ont été choisis en Christ. Et comme Dieu a dit à Abraham que le Seigneur allait servir pour lui comme bouclier, ça c'est en Genèse chapitre 15, si nous continuons jusqu'au verset 15 de Genèse. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Comment est-ce que Dieu était le bouclier d'Abraham, exactement comme il est la défense de tous ceux qui sont héritiers comme Abraham, c'est en Jésus-Christ. C'est lui la défense de ses héritiers. Et dans le verset 4 de Genèse 15, c'est signalé qu'Abraham aurait un héritier qui viendrait de son propre corps. Toujours en parlant de Christ, parce qu'il a posé la question dans le verset 2, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Il était déjà avancé en âge. Et Dieu lui promet une postérité. Mais voilà la promesse. Alors la parole de l'Éternel, verset 4, Genèse 15, lui fut adressé ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors, ça ne devait pas être un serviteur qui devait servir d'héritier, mais son propre fils. Voyons ainsi de suite comment ces promesses ont été annoncées à Abraham, exactement comme c'était écrit ici. Isaac, voilà ce que Dieu a promis, cette postérité en particulier, lui qui avait reçu les promesses dans Hébreux 11 et le verset 17. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, encore dans son épître aux Galates, a parlé d'Isaac comme le fils de la promesse. Dans Galates chapitre 4 et le verset 28, c'est écrit pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous ne voyez pas comment nous partageons cette bénédiction des promesses qui ont été données à Abraham. Nous partageons ces bénédictions spirituellement. Parce que je sache, je n'ai pas de sang juif en moi. Je ne suis pas un descendant d'Abraham en ce sens. Mais quand il dit dans la 4:28, pour vous faire comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Comment est-ce que nous sommes enfants de la promesse en cette postérité qui est venue de la part d'Abraham à travers Isaac? Et c'est ainsi en Christ que nous pouvons comprendre cela. Voilà la foi. Voilà ce qui est donné à tous ceux qui sont des enfants de la promesse, des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, c'est la même foi qui a été une foi transmise, foi pour toutes, transmise aux saints, à ceux qui sont sanctifiés, justifiés. Voilà les saints, ce n'est pas une sainteté à nous-mêmes. Mais aux saints qui sont ainsi déclarés par l'œuvre de Christ, et que c'est la justice de Dieu en Christ qui nous est attribuée depuis la croix. Voilà notre justice devant Dieu. Mais, puisque le titre de cette étude, c'est l'épreuve de la foi d'Abraham, il faut savoir, et je crois bien nous savons, nous qui sommes les enfants de Dieu et à qui il nous a donné cette foi en Jésus-Christ, c'est le don de Dieu, mais il faut savoir que la vraie foi sera toujours mise à l'épreuve, comme c'était le cas d'Abraham, afin que nous sachions qu'il n'y a pas de vraie foi durable en dehors de ce que Dieu lui-même donne. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui professent avoir la foi et qui pensent que c'est par leurs efforts qu'ils se maintiennent dans cette voie. Et cela va tôt ou tard disparaître. Ça, c'est pas la véritable foi. La foi a ce fondement dans l'élection d'abord de la grâce souveraine de Dieu depuis l'éternité. Et cette foi a son fondement dans l'œuvre de Christ et sa personne et tout ce qu'il a accompli comme objet de cette foi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui appelle à Christ ceux qui sont les objets de cette grâce de Dieu, et c'est Christ qui les maintient. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2, ça parle de ceux que nous sommes en train de regarder ici comme témoins. Nous regardons, c'est décrit comme une grande huée de témoins. Beaucoup d'exemples de la foi. Et c'est pour cela que l'écrivain aux Hébreux dit, rejetons tout parabole et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est comme une course. Ceux qui courent se déshabillent pour mieux courir et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça, c'est cet appel. Mais comment est-ce que nous courons? Non, non, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc ce n'est même pas selon nos propres efforts ou bien la puissance quelque part en nous. Non, c'est en Christ, le chef et le consommateur. Le chef, celui qui est à l'origine de la foi, et le consommateur, c'est lui qui assure que ceux qui sont les objets de cette foi, qui ont reçu cette foi comme Abraham, persévère jusqu'au bout. Voilà où l'accent est placé. Dans la première épître de Pierre et le chapitre 1, nous avons ceci indiqué. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. C'est écrit, afin que l'épreuve de votre foi, comme je disais, si c'est la véritable foi, donc Dieu doit l'éprouver. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, là il s'agit de la foi qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Si on prend de l'or ou faire passer l'or par le peuple, puis purifier cet or, combien plus alors la véritable foi, afin que cela ait pour résultat quoi? Pas la louange de celui qui persévère, non, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cela veut dire, notre récompense, est, ça sera de voir Christ en réalité tel qu'il est, exactement comme cette foi qui nous a été donnée. Mais comme l'or qui doit être éprouvé, ainsi la foi sera éprouvée. Et les épreuves de la foi sont multiples durant nos vies. Mais c'est Dieu qui éprouve la foi. Exactement comme il a fait, comme c'est écrit dans Hébreux 11, le verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Qui est-ce qui l'éprouvait? Notons bien, ce n'est pas les épreuves qui produisent la foi, mais les épreuves sont données pour éprouver cette foi, pour démontrer que la foi provient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Alors, le temps du verbe ici dans le verset 17, quand c'est écrit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Le temps de ce verbe, mis à l'épreuve, et indique que c'était une épreuve provenant de Dieu, et c'est une épreuve en ce qui concerne le sacrifice qu'il était prêt à offrir en offrant Isaac. Nous avons même dans cette épreuve, comme la foi est une démonstration de la personne et l'œuvre de Christ, ainsi même ici, cette épreuve que Dieu a ordonnée à Abraham d'offrir son fils est une démonstration du dessein de Dieu d'offrir son propre fils. Qu'à travers cet exemple que nous avons ici, Dieu lui-même donnait une illustration de ce qu'il allait faire des années plus tard en offrant son propre fils. Ce n'est pas nécessaire qu'Abraham finisse par offrir son fils, cela veut dire le tuer, parce que ce n'était pas le but. Le but, c'est d'éprouver la foi d'Abraham et démontrer que, quoique Abraham était prêt à aller jusqu'au bout, néanmoins, c'est Dieu qui l'a retenu pour l'empêcher de sacrifier Isaac, sinon il était prêt. Et comme c'est écrit ici dans Hébreux 11 et le verset 19, croyant, voilà l'épreuve de sa foi, en montant sur cette montagne de Moria, Abraham avait cette confiance que même si il sacrifiait son fils, Isaac, et le sens du mot sacrifier, ce n'est pas simplement de faire écouler son sang, mais c'était un sacrifice qui devait être accepté par Dieu et ainsi brûlé par le feu. Que descendre de ce sacrifice, Dieu était capable de ressusciter son fils de la mort. Voilà cette foi qui lui a été donnée. Alors son épreuve, c'était d'aller jusqu'au bout. Et c'est ainsi que Dieu s'est intervenu pour empêcher Abraham d'aller jusqu'au bout, parce que cela était réservé au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu lui-même a ouvert à la croix et qui s'est sacrifié complètement jusqu'au bout. Mais tout cela est révélé dans Genèse chapitre 22. Voilà, nous arrivons maintenant à ce passage qui est cité ici dans Hébreux chapitre 11. Quand c'est écrit ici que par la foi, Abraham offrit Isaac. Nous avons l'histoire ici dans Genèse chapitre 22. Et du verset 1 jusqu'au verset 14, nous allons lire cela. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez, c'est tiré directement de ce passage dans l'Ancien Testament. Lorsque c'était écrit ici, dans Hébreux 11, 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Qui l'a mis à l'épreuve? C'est Dieu. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Ouais, le langage, c'est le même que nous avons ici dans Hébreux 11. Ça suit exactement les Écritures. C'est écrit, et qui offrit son fils unique. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'autre fils, mais unique dans ce sens, que c'est par lui que Dieu a donné la promesse de sauver un grand nombre à travers sa postérité, c'est-à-dire à travers Christ. Et notons ici, verset 2, ton unique, celui que tu aimes. Nous pouvons lire tout ce passage pour voir les comparaisons avec l'amour de Dieu pour son fils unique. Celui que Dieu aime de l'éternité en éternité. Mais il dit, Isaac va-t-en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te verrai, je te dirai. Certains ne le savent pas, mais en fait, cette montagne de Morija était exactement la montagne sur laquelle le temple de Salomon, des années plus tard, devait être construit. Si vous voyez, regardez le doigt ici dans Genèse 22, mais dans 2 Chroniques. Ça, c'est important, vraiment, à souligner dans 2 Chroniques, chapitre 3, et le verset 1. Nous lisons, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire de d'ornant le Jébusien. Donc chaque détail nous montre comment cet accomplissement devait être en Christ des années plus tard. Même l'endroit où Dieu a indiqué à Abraham qu'il devait offrir son fils, c'est là, sur cette montagne, appelée plus tard Calvaire, que Dieu lui-même a offert son propre fils. Mais Abraham se leva de bon matin, et c'est ça, c'est ainsi que nous voyons la foi qui lui a été donnée. Il savait que même si Dieu exigeait qu'il offre jusqu'au bout son fils, que Dieu allait ressusciter son fils, si telle était la nécessité. Et nous disons cela parce que Abraham se leva de bon matin, il n'a pas hésité. Et cela, son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, il pendit du bois pour l'holocauste. Voilà le sacrifice qu'il devait offrir. Un sacrifice, un holocauste, c'est-à-dire brûler complètement. Et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Mais tout cela n'a pas empêché. Il continuait à regarder à ce lieu. Voilà ce que la foi fait. Même avant d'arriver au lieu, il savait que c'était là que le sacrifice devait avoir lieu. Et c'est ainsi que nous avons cette foi. Remarquons encore que la foi concerne Christ et Christ crucifié. Que nous voyons en lui sa personne, son œuvre et même le lieu où il devait être offert. Tout cela, la foi regarde et croit. Et verset 5 est très important. Quand nous voyons le témoignage ici d'Abraham, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour quoi faire? Adorer. Abraham savait que Dieu ne pouvait accepter aucune adoration si ce n'est à travers un sacrifice sans mort. Bien sûr, à ce moment, il ne savait pas que Dieu allait préparer un bélier pour servir à la place d'Isaac. Mais néanmoins, il savait que pour adorer, il faut un sacrifice, comme nous aujourd'hui. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Mais notons la dernière partie du verset 5. C'est écrit, et nous, il n'a pas dit « Je reviendrai » et « Nous reviendrons auprès de vous. » Donc, du début jusqu'à la fin, telle était cette foi qui a été donnée à Abraham. Bien sûr, mise à l'épreuve ici, mais puisque c'était une foi venant de Dieu, ça n'a pas hésité. Et quand il dit « Nous reviendrons », c'est ainsi que l'auteur aux Hébreux, de son épître, chapitre 11, verset 19, l'a dit, il pensait, il considérait que Dieu est puissant. Parce que c'est pas Dieu qui a créé le monde, qui donne la vie. Donc, il considérait que dans la puissance de Dieu, Dieu était capable même de ressusciter les morts. C'est ainsi il a recouvert Isaac par une sorte de résurrection. Pour Abraham, Isaac était déjà mort. Donc le fait que Dieu s'est interposé et a donné un béni à la place, pour Abraham, c'est comme si Dieu, par la résurrection, lui a remis son fils. Nous pouvons peut-être continuer à lire le reste du chapitre, mais le verset 6 et 7 et 8 sont très importants en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Même en cela, ça représente ce que Christ devait endurer, le bois, la foi qu'il a endurée, et porta dans sa main le feu et le couteau. Le feu représentait la justice de Dieu, le jugement de Dieu, le couteau, l'instrument de la mort, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est ainsi qu'Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il n'est pas en train de dire à Isaac que Dieu allait pourvoir lui-même un agneau, mais quand c'est écrit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, la manière de comprendre ça, c'est que Dieu se pourvoira lui-même comme l'agneau pour l'Holocauste. Parce que Christ venant dans la chair n'est autre que Dieu venu dans la chair. Et c'est ainsi, lorsqu'ils sont arrivés au lieu, qu'Abraham a pris son fils et l'a attaché à l'autel. Il a pris le couteau pour égorger son fils. C'est intéressant, nous allons voir la prochaine fois, la fois Isaac. Imaginez Isaac lui-même, qui était entièrement soumis à la volonté de son père Abraham. Et il n'a pas hésité à suivre ce que Dieu a donné comme instruction à Abraham. Telle est la foi. Même pour Isaac, c'est une épreuve de sa foi, sachant que rien n'allait se passer si ce n'est selon ce que Dieu lui-même a ordonné. Donc voilà l'épreuve de la foi d'Abraham. Et comme je disais, bien qu'Isaac devait être réduit en cendres, il croyait que Dieu allait le ressusciter, même d'entre les morts. Et c'est ce qu'il a fait avec son fils. Bien sûr, il a dû mourir et il est mort pendant 3 jours, il était enterré, mais Dieu l'a ressuscité. Et je crois que c'est de cela que Christ lui-même s'est référé dans Jean chapitre 8, quand les hommes religieux l'interrogeaient au sujet de sa personne et qui il était. Et nous voyons qu'à travers ses réponses, ils ont même dit de lui qu'il avait un démon, parce qu'il avait dit que qu'avant Abraham fut lui-même, il existait. Et c'est écrit, verset 52, Jean 8, le verset 52, commençons là. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Vous voyez, ils n'avaient pas cette foi de voir qui Christ était. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup qui professent connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas son fils n'a jamais été élevé. Même s'ils disent, ah non, nous croyons en Jésus, mais est-ce que c'est le Jésus de la Bible? Est-ce que c'est le même Christ qui a été révélé à Abraham? Il dit, pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, voilà le verset clé ici, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Je crois que c'est de ce passage que nous avons vu dans Genèse que Christ parle lorsqu'il a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il l'a vu et il s'est réjoui. Voilà la même foi qui est donnée à tous ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Et voilà les moqueries des Juifs qui continuaient, verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Notons bien, avant qu'Abraham fût, il n'a pas dit j'étais. Non, il a dit je suis. ce terme je suis, c'est en hébreu, c'est Jéhovah. C'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse comme le Dieu qui existe à jamais. Je suis. Et voilà le terme que Christ lui-même a utilisé. Et les Juifs ont bien compris parce que verset 59, il a reçu, il prit des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et voilà l'épreuve de la foi d'Abraham. Beaucoup d'autres points qu'on pouvait peut-être souligner. Mais puisque Abraham a été donné cette foi de regarder à Christ, même à travers cette épreuve, c'est sa foi qui était soutenue à travers l'épreuve. Comme pour tous ceux qui sont véritables enfant de Dieu. Ce n'est pas en nous-mêmes, mais c'est en Dieu, à travers son Fils, que nous sommes gardés jusqu'au bout. Alors que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre ensemble. Amen.